Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Quittons la France ce matin, quittons l'Europe même et voyageons vers l'Orient, sur les terres du bouddhisme et de l'un de ses textes fondateurs, le Bodhicaryavatara, qui peut être lu comme un traité d'éthique à l'usage de ceux qui cheminent en direction de l'éveil. Bonjour Alexis Lavis.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous êtes bien éveillé ?
Pas trop mal, ça va.
C'est le but, non, du texte dont on va parler aujourd'hui, c'est d'atteindre l'éveil ?
Oui, mais pas le réveil.
Ah non, c'est bien pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous êtes bien éveillé et non pas réveillé ?
Je suis dedans, les deux pieds joints.
Ah, dedans, alors ça c'est encore peut-être ce qui est difficile. Alors, le texte en question, je l'ai dit, s'appelle le Bodhicaryavatara. Il est écrit par Shantideva, enfin écrit. On en tient pour l'auteur, et c'est un des textes fondateurs de ce qu'on appelle le bouddhisme aujourd'hui, et vous en proposez une traduction aux éditions du Cerf dans un ouvrage qui s'appelle La conscience à l'épreuve de l'éveil, une traduction mais aussi une lecture et un commentaire, et on trouve des choses passionnantes dans votre livre, je dois dire. Vous établissez des liens entre le bouddhisme, la phénoménologie de Husserl et l'école de Palo Alto.
Et oui, c'était l'enjeu de ce livre, c'était évidemment une traduction pour se confronter à la langue sanskrite, qui est une langue en plus d'une famille voisine de la nôtre, ça appartient à l'espace linguistique indo-européen, donc par rapport au chinois, le chinois c'est quand même très loin, le sanskrit c'est loin, mais ça vous regarde un peu dans les yeux, c'est un en face. Et donc ça permet effectivement de travailler sur la langue, de travailler sur une sorte d'archéologie du sens à partir de la langue, donc c'est toujours intéressant et c'est une partie de ce travail-là, travailler sur nos propres vocables à partir d'un enracinement plus ancien dans la langue. Un recours un peu pensant à l'étymologie, évidemment. Mais aussi, c'était l'occasion de déplacer, on pourrait dire, le champ d'interprétation du bouddhisme, qui a toujours tendance à être vu comme une sorte d'exotisme où il faut être zen à tout prix.
C'est Kung Fu Panda pour
c'est
nous,
Kung
en
Fu
fait,
Panda,
le
voilà.
Bouddhisme.
Et moi qui aime sincèrement et profondément cette tradition et qui n'en fait pas un ailleurs, mais qui aime mon... Je suis un contemporain. Voilà, et nous sommes tous d'ailleurs des contemporains du bouddhisme. Le bouddhisme est apparu, enfin, il y a longtemps, mais il y a encore des bouddhistes actuellement. Donc, c'est pas une tradition du passé, c'est une tradition actuelle qui existe en Occident depuis quelque temps déjà. Et les conditions de sa réception sont toujours en travail. Comment entendre la parole bouddhique et ses différentes paroles, parce que c'est une tradition longue. Qui a évolué, où on s'est tapé dessus, on n'était pas d'accord, comme la traduction occidentale, c'est pas monobloc. Et donc j'ai essayé de changer, on pourrait dire, l'axe de lecture, non pas à partir, souvent on entend le bouddhisme soit à partir d'une forme de stoïcisme, soit à partir d'une forme de scepticisme, bref, à partir de traditions antiques. Et j'ai trouvé que dans les avancées les plus modernes de la philosophie, c'est-à-dire en phénoménologie, pas seulement husserlienne d'ailleurs, mais chez Michel Henry par exemple, dans son entente du corps, chez Merleau-Ponty il y a des choses passionnantes, du côté allemand aussi, et enfin dans cette école américaine que je trouve absolument géniale et qui elle-même s'est revendiquée du bouddhisme.
Qui est donc l'école de Palo Alto.
Qui est l'école de Palo
fondée
Alto.
Fondée entre autres par George Bateson et Paul Watzlawick.
Oui.
Et qui autour des années 1950.
Donc dans les années 50, effectivement, c'est un collège de chercheurs tous azimuts qui repense, qui essaie de repenser qu'est-ce que c'est que l'esprit. Ils posent la question de l'esprit et ils en arrivent à, d'une certaine manière, aller absolument contre la tradition cartésienne, c'est-à-dire à ne pas faire de l'esprit une faculté d'un sujet, mais à penser l'esprit dans une totalité en interaction. Autrement dit, l'esprit, c'est la situation. Et vous voyez, cette pensée qui est très étrange, qui nous déplace complètement, elle est au cœur du bouddhisme, depuis l'origine, et nous, elle est encore à penser, et nous l'avons pensée à partir de notre propre site. philosophique. Et dès lors, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai dit, mais si notre site philosophique a pu produire des pensées comme la phénoménologie, c'est-à-dire la corrélation, une pensée très intense de la corrélation, de l'entre-deux, et une pensée de la systémie, c'est-à-dire d'une totalité active et interactive, alors nous avons actuellement peut-être une des chances philosophiques les plus grandes de enfin comprendre le bouddhisme, je dirais, à son sommet. Car je pense que, effectivement, le bouddhisme est spéculativement beaucoup plus intense, beaucoup plus précis que la soupe tiédasse qu'on nous livre souvent nous laisserait croire.
Voilà. Ah oui, la lecture de votre livre, on ressort avec l'idée inverse que l'on se faisait du bouddhisme, qui est celle de le concevoir comme quelque chose, au contraire, de très précis, voire de très technique, ce qui est même un peu effrayant. On se dit, mais est-ce qu'on peut jamais avoir accès à ces textes? Ce qui est la même réaction qu'on peut avoir face à un texte de Husserl, qui serait très compliqué d'ailleurs.
Oui, tout à fait. En réalité, effectivement, il y a une tâche. Il y a une tâche à penser, mais c'est une formidable aventure de penser à une période où, même en philosophie, on a tendance à douter un peu de qu'est-ce qui nous reste à penser, quelle est l'aventure de la pensée. Mais moi, j'en ai trouvé une. Je pense que, effectivement, comme je le fais aussi du côté chinois, d'ailleurs, on l'avait déjà vu ensemble. D'ailleurs,
vous êtes déjà venu à ce micro nous parler de philosophie chinoise, de Confucius, de Lao Tzu et d'autres.
Et ce qui est étonnant, c'est que ça nous parle. Oui. Ça nous parle. Et je trouve qu'avec le bouddhisme, ça nous parle au lieu même où nous sommes en train de discuter. Entre
Mais alors,
nous.
Est-ce que le but de votre entreprise est de faire connaître et de permettre d'étudier les textes bouddhistes? De montrer qu'en fait il nous parle, comme vous dites, plus que ce que l'on croit, ou de prouver ou d'interroger l'hypothèse d'une forme d'universalisme. C'est-à-dire que, en fait, chacun à notre façon, nous autres Européens, eux Américains et le bouddhisme même le plus antique, posons les mêmes problèmes, simplement de façon différente. Parce que c'est pas la même chose.
Ah non, c'est pas du tout la même chose. Pour aller dans le sens de la deuxième option que vous présentiez.
Donc l'universalisme, c'est-à-dire qu'en fait, l'humanité se pose peut-être les mêmes problèmes, mais à des manières très différentes de se les poser.
Au fond, ça serait une hypothèse très ouverte, c'est-à-dire qu'elle peut ni être confirmée, ni être invalidée. Donc je suis pas sûr que ce soit réellement une hypothèse de travail, parce qu'elle est trop ouverte. C'est beaucoup plus simple, c'est que moi, j'étudie cette tradition depuis 20 ans, et ça ne cesse de m'interroger, de me questionner, et effectivement, j'ai étudié le bouddhisme et en parallèle, j'ai étudié la philosophie, sans d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir les faire dialoguer. Pendant très longtemps, je me souviens, par exemple, lorsque je passais l'agrégation, des choses comme ça, j'étais en haine contre le bouddhisme parce que je trouvais le discours trop laid ou trop mou, trop quiétiste, vous voyez, quelque chose comme ça. Et en même temps, j'étais en colère aussi contre la philosophie qui se berçait d'abstraction et de stérilité. Et pendant très longtemps, ça a été la guerre interne. Donc le même m'est apparu au prix d'une certaine lutte et d'une certaine
les
aventure.
Les deux vous déplaisaient, en fait.
Oui, quand j'en faisais un, soit je détestais l'autre, soit j'en avais marre de l'autre. Donc du coup, je chérissais l'un. Et je faisais du ping-pong comme ça. En plus, c'est pas exactement les mêmes approches, puisque pour le bouddhisme, je le rappelle, le bouddhisme est une tradition intégralement contemplative. Il faudra peut-être revoir qu'est-ce que ça signifie, le regard contemplatif, regard jeté sur le monde contemplatif. Et je pense que c'est ça le point qu'il nous faut voir, pour nous, en tout cas même en Occident. Voilà. Et la tradition philosophique, qui est une tradition rationnelle, où il s'agit de saisir des identités le plus précisément possible. Donc il y a une contradiction, d'une certaine manière, dans le destin philosophique, dans l'approche philosophique du monde et dans l'approche bouddhique du monde. Mais néanmoins, et c'est là que j'essaie de pouvoir répondre, sans pouvoir répondre à votre question, je pense que notre temps, actuellement, notre période, depuis, peut-être un siècle, il y a un tournement dans la pensée occidentale qui ouvre la possibilité d'entendre quelque chose de très radical dans le bouddhisme. Et je serais même fou, je dirais même, et peut-être mieux que même que les Asiatiques. Par exemple, vous prenez l'art moderne, c'est tout à fait étonnant que les modernes, vous prenez les grands peintres américains, vous prenez Pollock, vous prenez Barnett Newman, vous prenez Maurice Lewis, des peintres absolument étonnants, où plus rien ne se montre à vous, vous n'avez plus de figure, vous avez une expérience picturale intégrale. Or, toutes ces personnes-là lisaient des textes bouddhiques et se revendiquaient, d'une certaine manière, d'une forme du bouddhisme. Vous avez ça, des choses. L'école de Palo Alto, dans les livres, par exemple, je me souviens d'un des grands livres de l'école de Palo Alto, il termine par l'analyse d'un dialogue entre un moine zen et son disciple. De même, Bateson, dans Nature et Esprit, par exemple, ou dans d'autres livres qu'il a écrits, dans A Step to an Ecology of Mind, donc ça fait un pas vers l'écologie de l'esprit, aussi parle du bouddhisme, parle de cet étrange rapport à l'esprit qu'ils ont. Donc oui, on commence
Schopenhauer aussi, auquel on vient de consacrer une semaine.
Et effectivement, j'ai entendu cette semaine Schopenhauer, qui est l'un des premiers, avec Nietzsche. Alors, dans des manières, à mon avis, peut-être plus maladroite, précisément parce que le temps, ils étaient devanciers dans leur temps, et leur temps n'était pas encore suffisamment tourné, si vous voulez, vers le bouddhisme. Mais je pense, voilà, notre temps se tourne vers le bouddhisme, se tourne vers l'Asie, vers quelque chose de l'Asie, et il ne faut pas géographiser la pensée, c'est absurde, c'est une manière très superficielle d'envisager les choses, mais néanmoins, on pourrait dire, peut-être regardons-nous enfin le même phénomène.
Le texte en question, donc le Bodhicharyavatara, peut-être, on va en entendre un extrait, mais il faudrait qu'on en sache un peu plus sur ce texte pour savoir ce que l'on écoute, Alexis Lavis.
Alors, c'est pas un texte fondateur à proprement parler, puisque c'est un texte du 8e siècle, donc c'est un texte, on pourrait dire, de l'apothéose du grand véhicule. C'est une sorte de grand véhicule complètement assumé.
Alors, il faut nous dire ce que c'est que le grand véhicule.
Ah bah, le bouddhisme, c'est un peu étrange, parce que c'est une distinction qui appartient au grand véhicule lui-même, donc... Le bouddhisme sait distinguer entre un petit véhicule, considéré comme le véhicule des pratiquants solitaires, des personnes qui travaillent à proprement, dont l'espace de travail est eux-mêmes, et qui cherchent ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire l'au-delà des peines, une forme de cessation, d'arrêt à quelque chose.
De la souffrance, oui.
Et après s'est développée une autre approche, qui n'est même pas une approche, qui est un véhicule, une autre manière d'y aller, si vous voulez, beaucoup plus ouverte, où l'on ne cherchait plus à proprement parler l'au-delà des peines, on ne cherchait plus une fin, un arrêt, mais on cherchait à commencer quelque chose. Et c'était le grand véhicule, c'est-à-dire l'éveil. On cherche l'éveil, la bodhi, mise en image par l'océan. C'est-à-dire, vous savez, il y a une différence très intéressante entre la mer et l'océan. La mer, c'est une grande étendue d'eau, mais on voit encore les côtes. On sait que, d'une certaine manière, il y a un tour. L'océan, c'est l'eau à perte de vue. C'est l'eau quand on perd les rives de vue. Et donc, du coup, être sur une dimension océanique de l'existence, c'est ça la découverte du Mahayana. Ça s'est fait de deux manières, de deux grandes écoles. Le Madhyamaka, dont Shantideva, à cette école Shantideva appartient, c'est-à-dire la voie du milieu, peut-être on en parlera, et le Chittamatra, qui est assez proche d'ailleurs de la phénoménologie sur bien des points. Qui analyse, on pourrait dire, le phénomène même de l'esprit. Et au moment où Shantideva a écrit, donc ça a été un moine qui appartenait à la grande université bouddhique de Nalanda, un centre d'études absolument immense, pas que bouddhiste d'ailleurs, il y avait des grammairiens, des astrologues, il y avait tout ce que vous vouliez. Et effectivement, il a produit ce texte qui est une sorte de rassemblement de ce qui pourrait être une éthique bouddhique. Voilà.
Et sachant que la formule même d'éthique bouddhique peut poser problème, parce que quand on parle d'éthique, on parle de vivre avec d'autres personnes, il n'y a pas d'éthique solitaire, donc on est forcément dans une approche qui est celle qui ressemble à ce que vous appelez le grand véhicule, c'est ça? C'est une approche plus collective qu'individuelle.
J'irais même, c'est une approche commune. Au sens où, par exemple, quand vous prenez le bus,
vous prenez... Vraiment dans le véhicule.
Oui, oui. Ah oui, et le mot yana, donc c'est mahayana en sanskrit, yana ça veut dire un véhicule, une charrette. Donc, prenons un véhicule, vous prenez le bus, vous prenez pas un bus intersubjectif, mais vous prenez un bus, c'est-à-dire un transport en commun. Mmh. Vous prenez pas un transport de multiplicité. C'est très intéressant, le français est très juste là-dessus. C'est une dimension, le commun. Qu'est-ce qui nous est commun, vous voyez ? Eh ben, le Mahayana, c'est l'entrée dans le commun. Et le commun, c'est très vaste. Vous voyez ? C'est océanique, le commun.
Et vous parlez d'éthique, il y a donc un cheminement à suivre pour arriver à cette entrée dans le commun. Mm. Et ce cheminement se fait selon différents guets. C'est le terme clé, non ? Le terme de guet. Le texte qu'on va entendre présente le guet de la discipline. Où est-ce qu'on en est dans l'éthique, avec le guet de la discipline ?
C'est la manière de se tenir et de s'y tenir dans cet espace ouvert, océanique, que d'ailleurs, dans un texte de Lévinas que j'ai trouvé, il a reconnu lui-même, dans une expérience tout à fait étrange, qu'est l'insomnie, et il l'a baptisé « il y a ». Eh bien, comment s'y tenir dans « il y a » ? C'est ça la discipline dans le bouddhisme. dans le bouddhisme.
Alors, on va écouter la voix de Lévinas, qui nous parle de l'ilia, justement comme étant cette façon d'écouter ce que lui nomme le bruissement de l'être. Et puis, un extrait donc du texte de Shantideva que vous avez traduit, Alexis Lavis, le moment du guet de la discipline, ou encore de la présence d'esprit. Ce sera un texte lu par Daniel Mesguich.
Il y a, pour moi, cet phénomène de l'être impersonnel. Il, n'est-ce pas ? Ce thème remonte à des souvenirs d'enfance, pas au berceau, pas du berceau, mais enfin, la période où l'enfant s'endort seul dans les grandes personnes continuant la vie et qui ressentait le silence des salles, chambre à coucher, comme bruissant. Et quelque chose qui ressemble à ce qu'on entend quand on approche une coquillage vide de l'oreille. Comme si le vide était plein, comme si le silence était un bruit. Et quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on pense que même si il n'y avait rien, le fait qu'il y a n'est pas niable. Non pas qu'il y a ceci ou cela, mais que la scène même de l'être est ouverte. Il y a, dans ce vide absolu qu'on peut imaginer d'avant la création, il y a.
La conscience doit avant tout être tenue de cette façon. Comme si j'étais dépourvu de sens, qu'elle soit dressée tel un bâton de bois. Point de coup d'œil à porter un peu partout. Il faut toujours avoir le regard baissé. Mais si les yeux ont besoin de repos, on regardera quelquefois aux alentours. Et après avoir vu ce qui n'est que reflet, on attachera son regard à un objet adéquat. Avant de prendre la route, on regardera un instant dans les quatre directions afin de mesurer le danger. Se reposant, on regardera la distance parcourue en se retournant derrière soi. On continuera ou l'on rebroussera chemin après avoir examiné ce qu'il y a devant et derrière. C'est ainsi qu'en toutes circonstances, on fera ce qu'il faut faire après s'être bien mis au fait.
Lévinas, Shantideva, le chant indien et Alexis Lavis sont avec nous en studio aujourd'hui pour vous parler de ce texte bouddhiste, le Bodhicharyavatara, que vous avez traduit Alexis Lavis et commenté, qu'on trouve aux éditions du Cerf. On en a entendu un extrait après avoir entendu la voix de Lévinas, c'était en 1981 sur le chemin de la connaissance, où il décrit ce « il y a » comme étant la scène même de l'ouverture à l'être, et on trouve cet exact équivalent dans le texte lui-même, n'est-ce pas ?
Ah oui, tout à fait. C'est l'un des mots les plus centrales du bouddhisme et qui est un mot, excusez-moi de l'expression, qui est un mot un peu à la con, comme l'est le mot « il y a », c'est-à-dire un mot complètement anonyme, qui ne dit pas grand-chose, qui fait presque fonction de bouche-trou.
Quel est ce mot ?
C'est « tata » en sanskrit. « Tata », ça signifie... On le traduit parfois par « ainsi ». Et « tatata », oui, c'est assez drôle, parce que et « tatata », certains le traduisent par « inciter », mais c'est tout de même très pas beau à l'oreille, et ça ne veut rien dire. Non, c'est tout simplement, c'est très simple, ça veut dire juste « il y a ». C'est ainsi, mais pas au sens, comme le dit très bien Lévinas, « c'est ainsi et pas autrement ». Non, c'est. C'est.
C'est le spectacle de l'être.
C'est l'être, comme il dit, entièrement dessoulé. C'est une expression absolument magnifique. Et là, vous avez effectivement cette expérience d'éveil, on comprend, c'est le dessoulement dans l'être. Et c'est ça, au fond, le cœur de ce que j'appelle, ce qu'on a, pas moi, mais ce qu'on appelle la voie contemplative. Oui. C'est ça, la contemplation, qui se dit en grec « théoria ». Or, ça c'est quand même des cas de vocabulaire, qui ne sont pas simplement des anecdotes. En sanskrit, le mot qui sert à dire méditation, « dhyana », est exactement de la même racine étymologique que le grec « théoria ». Et là, vous avez l'espace du même. Et ça a été vu. Sauf que nous avons pris, d'une certaine manière, un autre chemin civilisationnel que ce qui a été vu et, disons, tenu pour le bouddhisme. Et je crois que, si vous voulez, j'ai deux choses à dire sur ça. Donc, je parle d'abord de Lévinas, et ensuite, on parlera juste d'un passage de Platon que je trouve tout à fait signifiant. Dans un dialogue, d'une certaine manière, qui ne s'est jamais fait, mais qui est en attente. Effectivement, Lévinas reconnaît, donc, dans deux textes magnifiques, de très courts textes, dans De l'existant à l'existant, texte qu'il écrit pendant la guerre, et avec l'angoisse que c'est un texte sur l'insomnie, sur l'expérience de l'insomnie, l'impossibilité de dormir. C'est ça, le dessoulement de l'être. Et enfin, quelque chose qui reprend après, avec une plus grande maturation encore, dans De Dieu qui vient à l'idée. Mais dans les deux cas, cette expérience qu'on pourrait appeler antéprédicative...
Avant le discours.
Avant le ceci, avant le cela, avant le je, avant le tu, ne peut pas constituer quelque chose comme un chemin pour Lévinas. Il faut en sortir. L'éthique, c'est, à partir de cette ouverture dessoulée de l'être, l'apparition du visage, donc de l'autre.
Pour Lévinas, oui.
Pour Lévinas, bien sûr. L'éthique, c'est la donc du coup, l'éthique n'est possible qu'à partir de la conscience, c'est-à-dire à partir de la séparation de moi et d'autrui, et de moi et de donc du sujet et de l'objet. Et même, d'une certaine manière, pour Lévinas, une phénoménologie n'est possible qu'à partir d'une conscience. Ce qui est vrai aussi pour Husserl, d'une certaine manière. Ce qui ne sera pas vrai pour d'autres phénoménologues. Chez Maldinet, par exemple, la situation est beaucoup plus ouverte. Eh bien, dans le bouddhisme, vous avez exactement la même découverte de l'ilia, mais toute l'éthique bouddhique, donc on parlait de Shila, c'est ça Shila, c'est de revenir toujours à cet espace ouvert. Toujours, 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 toujours. Dans chaque geste, chaque respiration, chaque pensée est un rappel, et c'est ça au fond le sens secret de la vigilance, c'est la présence d'esprit, avoir présent corps et âme, d'une certaine manière, l'ilia. De s'y tenir.
Mais vous identifiez l'ilia et la conscience ?
Pas du tout, au contraire.
C'est ça.
C'est l'un empêche l'autre, d'une certaine manière.
L'ilia serait du côté d'une forme de contemplation, quand la conscience serait du côté d'une théorie ?
La conscience intervient à partir de l'expérience de l'ilia. L'expérience de l'ilia est beaucoup plus ouverte que l'expérience de la conscience. Pour vous donner un exemple très très simple... Le monde de la conscience, c'est le monde de la dualité sujet-objet, c'est-à-dire le monde où, disons, le mode d'appréhension où quelque chose me fait face. C'est ça la transcendance. Oui. La transcendance, c'est celle de l'objet. Il y a quelque chose hors de moi qui me permet de me saisir comme une intériorité. Or ça, le dit très bien Lévinas, c'est une sorte de déchirement au sein de l'IA, cette dualité-là. C'est déchirer quelque chose. Pourquoi faire ? Parce que ça permet de saisir des identités. Ça permet de se situer. La conscience, elle permet, oui, de se positionner d'une certaine manière. C'est la faculté de se positionner et de se situer dans le monde. Vous prenez deux expériences. Vous êtes face à un coucher de soleil, avec éventuellement votre petit ami, par exemple. Si vous êtes dans le monde de la conscience, alors vous voyez soleil, plage, bigorneau, petit ami, sexe féminin ou sexe masculin, cheveux blonds, cheveux bruns. C'est ça le monde de la conscience, c'est le monde de l'identification. Moi, autrui, à droite, à gauche, oui, tout ça est absolument marqué. Croire que l'esprit ou que l'expérience se résume à l'expérience consciente, c'est d'une certaine manière la folie cartésienne, peut-être. Mais on l'a tous fait, cette expérience. Lorsque vous êtes au bord d'un coucher de soleil avec votre petit ami, vous n'avez pas besoin d'identifier les choses. Vous êtes là, avec elle, ensemble. Et ça n'est pas un état d'imbécilité. Il y a une ouverture réelle, il y a une forme de connaissance, mais une connaissance qui n'en passe pas par la catégorisation. Ça n'est pas du tout... Donc il y a bien une forme de veille, mais qui n'est pas une prise de conscience, et qui n'en passe pas par là.
Et c'est cet état-là qu'il faudrait rechercher, qu'il faudrait atteindre. L'éveil, c'est une forme de veille.
Et vous voyez, c'est très paradoxal, car nul besoin de l'atteindre, ça ne s'atteint pas. Ouais. C'est absolument disponible.
D'ailleurs, le texte dit que nous naissons déjà éveillés.
Bien sûr.
Que ce n'est pas tellement un but à conquérir qu'un état à accepter en soi, ou à découvrir, ou à rencontrer, je ne sais pas.
L'éveil ne peut pas être un état, car un état appartient à la conscience.
Donc comment le qualifier ?
C'est un « ce » à partir de quoi ? C'est un « ce » à partir de quoi ? C'est une situation originelle, presque, quelque chose. C'est la manière dont
on n'est pas très loin de la phénoménologie dans les termes, la construction des expressions qui
Lévinas
paraissent toujours un peu barbares.
Lévinas est phénoménologue également, et il a vu ça très très bien. C'est-à-dire, c'est d'ores et déjà là, c'est le d'ores et déjà là.
Alors vous dites qu'on n'a pas besoin de regarder autour de soi et de nommer ou d'objectiver les choses pour profiter d'un coucher de soleil. Dans le texte qu'on a entendu...
C'est à cette condition qu'on en profite.
Alors bon, ça se discute parce que parfois la connaissance augmente le plaisir. Dans certains cas. Un beau tableau... Alors, coucher de soleil ne demande pas de connaissance. Un tableau que l'on trouve très beau peut procurer une sensation, une expérience très agréable. Savoir qu'en plus, ce tableau, par exemple, est très très rare ou très très vieux ou est peint par tel peintre qu'on apprécie particulièrement peut augmenter ce plaisir.
Mais en réalité, le problème, c'est la question du fondement, si vous voulez. Si la connaissance, au sens de la précision d'information... intervient à partir de cette expérience de l'Ilia, alors il y a approfondissement, enrichissement d'Ilia. Mais si la quête d'information est première, il y a déchirement de cela. Oui. Donc tout dépend, d'une certaine manière, à partir d'où le regard est porté.
En tout cas, dans le texte qu'on a entendu, il était dit « Avant de prendre la route, on regardera un instant dans les quatre directions afin de mesurer le danger. Se reposant, on regardera la distance parcourue en se retournant derrière soi. » Donc on a un mouvement du regard qui quand même identifie ce qu'il y a autour de lui.
Justement, et là on voit bien que ce mouvement du regard n'a juste pour... Il se déploie à partir d'un espace, d'une pratique méditative qui consiste à... garder, au fond la méditation c'est la praxis si vous voulez de l'Ilia, c'est le pratiquer de l'exister pur, et pour pouvoir habiter d'une certaine manière le mieux possible, il faut être aussi un peu prudent, oui. Donc effectivement si vous êtes absolument dans un état contemplatif 24 heures sur 24, vous risquez de vous manger des arbres quand vous marchez devant vous. Donc ça n'est pas du tout une manière de dire la conscience c'est pas bien ou la conscience ça sert à rien. Bien sûr que si, c'est absolument évident. Le problème c'est que il y a un oubli, quelque chose d'essentiel est oublié dans le mode d'être conscient au monde. Or dès lors que ça s'est oublié, ça engendre un mal-être très réel, une souffrance très réelle. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Et justement me revient cet épisode du Philebe de Platon. Où je vous parlais, il y avait un moment chez Platon qui est tout, où il y a une reconnaissance de cette Ilia qui est tout aussitôt zappée, presque. Donc c'est dans le Philebe. Vous avez Protarque et Socrate qui se promènent dans la campagne. Et Socrate voit quelque chose au loin. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce une pierre ? Est-ce un homme ? Et au lieu d'y rester comme ça, de juste tenir à ce moment où quelque chose s'est ouvert. Car rien ne manque. À la limite, que ce soit une pierre ou un homme, rien essentiellement ne manque. Ils sont là. Protarque, la pierre ou l'homme, le champ, tout est là. Et ils y sont. C'est magnifique, parce que même Platon l'écrit de manière poétique. Il y a un mouvement poétique à ce moment-là, de surgissement de présence. Mais Socrate dit non, non, non. Tant qu'on ne sait pas si c'est une pierre ou un homme, alors c'est rien. Et voilà la phrase inaugurale de la philosophie. Tant que l'on ne peut pas déterminer l'identité de le ce que c'est, alors c'est rien. Or, c'est pas évident.
Bergson ne dit pas autre chose, hein. On ne voit pas les choses elles-mêmes, mais les étiquettes qu'on a collées sur elles.
Néanmoins...
Les étiquettes, c'est le produit de la conscience qui cherche à nommer et à comprendre, et ce sans quoi nous ne pouvons certainement pas vivre non plus. Pour communiquer, pour travailler, nous avons besoin de ces étiquettes, nous avons besoin de cette conscience qui s'exprime, du langage, tout simplement.
Et quand on le sait dans cette dimension-là, alors tout est réglé. Mais le problème, c'est qu'on y croit. C'est que les choses se figent dans les identités. Et c'est les identités, après, qui causent nos existences. Voilà le problème.
Le problème, c'est l'identité.
Le problème, c'est le statut qu'on donne à l'identité. Le problème, c'est de croire en l'étiquette, d'y croire corps et âme. Et alors là, se crée une sorte de causalité très étrange, comme une causalité informationnelle. C'est-à-dire que c'est les identités que vous avez identifiées qui vous identifient et qui vous enferment.
Alors, il peut paraître très surprenant d'associer Husserl au bouddhisme, puisque même quand on a étudié un peu Husserl, on retrouve des termes assez compliqués et barbares hein, qui peuvent effrayer dans un premier temps. On ne voit pas a priori le lien avec ce que vous dites, mais il existe un texte que vous avez mis en appendice de votre livre, Alexis Lavis, dans lequel Husserl non seulement évoque directement le bouddhisme, mais lui rend hommage et semble dire que finalement c'est même le but de la pensée, enfin que sa philosophie et le bouddhisme ont un but commun. Écoutez ce texte.
Pour nous et pour tous ceux qui, dans cette période d'effondrement de notre culture, culture devenue superficielle et décadente, regardent avidement autour d'eux où trouver une forme de pureté spirituelle et d'intégrité, ce paisible dépassement du mondain est une grande expérience. Car pour tout lecteur bienveillant, il doit devenir bientôt clair que le bouddhisme, en tant qu'il nous parle à travers ses sources originales et pures, a à voir avec une méthode éthico-religieuse de la plus haute dignité pour la purification spirituelle et la pacification. Une méthode portée et traversée par une consistance interne, une énergie et une noblesse d'esprit presque incomparables. Le bouddhisme ne peut être mis en parallèle qu'avec les plus hautes formations de l'esprit philosophique et religieux de notre culture européenne. À partir de maintenant, notre destin sera de mêler la voix de la pensée indienne, laquelle est encore toute neuve pour nous, avec celle qui nous est ancienne, mais qui, par cette confrontation, reprendra vie et s'en trouvera renforcée. Grâce à la richesse de cette tradition confirmée, le Bouddha lui-même et ses disciples les plus éminents deviennent concrets dans les présents écrits d'une façon des plus palpables, comme représentants d'un nouveau type de sainteté humaine.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de bouddhisme, de phénoménologie et bientôt de l'école de Palo Alto en compagnie du philosophe Alexis Lavis qui publie aux éditions du Cerf une lecture, un commentaire et une traduction du texte de Shantideva, Bodhicharyavatara. Et l'extrait que nous venons d'entendre est de Husserl lui-même. Ce texte est assez incroyable, Alexis Lavis, parce qu'il dit quand même « Notre destin sera de mêler la voix de la pensée indienne, laquelle est encore toute neuve pour nous, avec celle qui nous est ancienne, mais qui, par cette confrontation, reprendra vie et s'en retrouvera renforcée. » Il va jusqu'à parler de destin.
Ah oui, oui, je souscris. Bon, c'est un texte effectivement étonnant parce qu'il apparaît dans un journal à l'occasion d'une traduction qui avait été faite par un certain Neumann, d'écrits du bouddhisme ancien. Et visiblement, cette traduction a touché Husserl, qui en a fait une recension. C'est la seule occurrence qu'on a, effectivement, du bouddhisme dans l'œuvre de Husserl, qui est une œuvre quand même assez copieuse, avec, effectivement, une reconnaissance d'un destin commun. Alors, si on lit Husserl, ça reste... Disons, il y a comme une communication... Il y a comme une mise en communication dans la confrontation avec le bouddhisme, même le dialogue avec le bouddhisme, entre ce qui a fait antiquité pour nous au niveau de la pensée. Mmh. Effectivement, on l'a vu avec Platon. Le moment aristotélicien est un moment particulièrement, on pourrait dire, anti-bouddhique. Et en même temps, il y a chez Aristote des fulgurances également. Mais surtout, il y a comme un télescopage, puisque, comme je le disais au début, je pense que notre époque actuelle, dans le champ philosophique et dans le champ artistique aussi beaucoup, est beaucoup plus réceptrice du message bouddhique, de la pensée bouddhique, que ne l'aura été des traditions plus anciennes de l'Occident. Et donc le destin, il est pas seulement de faire se rencontrer nos antiquités. Et je pense que c'est là que le texte peut-être de Husserl a sa limite, c'est qu'il pense que le bouddhisme est une tradition ancienne, alors que c'est une tradition actuelle, c'est une tradition vivante.
Mais c'est surtout, dit-il, une tradition qui peut nous aider à comprendre la nôtre, à comprendre d'où nous venons. C'est ce télescopage qui est très surprenant.
Et où nous allons, parce qu'il y a destin, donc il y a une ouverture. Mmh. Et c'est surtout ça qui m'a apporté, effectivement, c'est que ça ouvre un champ d'investigation, de réflexion, fondamentale pour la pensée en Occident, notamment à un moment où tout de même, disons la culmination de l'esprit scientifique qui est l'esprit conscient, qui est l'esprit cartésien, c'est-à-dire l'esprit de l'identification, de la détermination rationnelle de ce qui est, disons les conséquences éthiques, écologiques, psychologiques, sociales de ce mode de pensée commencent à être un peu inquiétantes. Et donc la possibilité de renouveler le site, voilà, le lieu de la pensée en Occident est une entreprise pas inintéressante.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à opposer de manière peut-être trop schématique d'un côté la pensée occidentale où la conscience domine le monde et utilise autrui comme des moyens et se sert de la technique pour détruire la planète et de l'autre une pensée qui serait peut-être celle du bouddhisme d'ailleurs, mais où chaque individu serait un sage contemplatif qui respecterait autrui et serait dans une forme de paix intérieure, dénuée de toute forme de souffrance.
D'une certaine manière, vous avez...
Parce qu'il y a une part de vérité dans tout ça.
Oui, il y a une part de vérité
oui,
dans tout ça.
Oui, c'est ça, vous le pensez.
Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que dit comme vous l'avez dit...
Mais c'était le cas, les pays où le bouddhisme est pratiqué seraient des pays où il y aurait beaucoup moins de problèmes, si c'était le cas. Or, c'est loin d'être le cas.
Non, mais bon, c'est caricatural, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en réalité... La caricature de notre dimension, de notre mode de pensée, c'est la mise à disposition de tout partout, la possibilité d'avoir une maîtrise entière sur le réel, l'homme comme maître et possesseur de la nature, c'est une dimension. D'une certaine manière, nous avons formidablement réussi. Et effectivement, dans la dimension ouverte par le bouddhisme, oui, c'est pas ça le résultat. Le résultat, c'est plutôt effectivement une forme d'apaisement très réel de l'existence. Donc ça c'est les deux, on pourrait dire les deux sketches, comme on dit en anglais, c'est les deux caricatures de ce que ça peut être. Mais c'est pas le problème, si vous voulez. Ce qui est intéressant pour nous, encore une fois, pour nous, moi je m'occupe pas de l'Asie ici, mais pour nous, c'est que philosophiquement, le bouddhisme n'est pas un à côté, mais un en face. Autrement dit, la proposition aristotélicienne qui fonde la pensée occidentale que être, c'est être quelque chose, que ce qu'on appelle être, c'est disposer d'une signification, ça c'est dit très clairement dans la métaphysique d'Aristote, eh bien cette proposition-là est contestée frontalement par le bouddhisme et qui travaille en son contraire. Donc c'est très rare, vous voyez, à un moment d'avoir... disons, un dialogue aussi étrange qui tape sur les fondements, qui tape sur les pylônes, et donc qui fait trembler toute la maisonnée. Et non, en plus, ça n'est pas... cette découverte-là n'est pas du tout mon fait. Nous sommes déjà très nombreux à avoir vu, effectivement, qu'une manière, vous voyez, d'entendre les textes bouddhiques, d'entendre les pratiques aussi bouddhiques, parce que les pratiques méditatives sont très, très importantes pour comprendre le bouddhisme, nous ébranle en un lieu passionnant, voilà, parce que fondamental. C'est-à-dire en un lieu que l'on voit assez rarement dans l'existence. On se contente, disons, de fonctionner. Voilà.
Est-ce ce lieu qui a été investi par ce qui s'appelle aujourd'hui l'école de Palo Alto, qui a été fondée dans les années 50, notamment par Gregory Bateson, avec le concours de Paul Vatlavik, Palo Alto, donc du nom de la ville en Californie, qui est une école, alors difficile à qualifier, de psychologie, psychosociologie, qui mène à la fois des recherches théoriques et pratiques, et qui... met en œuvre une certaine conception, je n'ose pas dire de l'esprit ni de la conscience, mais peut-être qui correspond à ce que vous dites. En tout cas, vous y faites référence en montrant les liens très féconds qu'il y a entre le bouddhisme et cette école.
Oui, oui, et des liens qui ont été faits par les membres de l'école de Palo Alto eux-mêmes. L'un des satellites, on pourrait dire, de l'école de Palo Alto, c'était Francisco Varela, par exemple. Francisco Varela a été un très grand méditant, très très grand. Très très connu pour c'est vraiment des aptitudes méditatives très intenses. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les personnes de l'école de Palo Alto cessent d'interpréter le mal-être comme un problème personnel.
Parce que là, on est vraiment dans la psychologie.
Oui.
On sort du registre de la philosophie.
De la spiritualité. Et néanmoins, non, on ne sort pas du registre de la philosophie. Pourquoi ? Parce que l'école de Palo Alto interroge les fondements sur lesquels repose l'idée qu'il y a une maladie mentale, par exemple. Alors ça, c'est des conceptions philosophiques, c'est pas des conceptions psychiatriques. C'est-à-dire, il y a une conception personnaliste de l'esprit. On pense que l'esprit, c'est une faculté d'un sujet. Et l'école de Palo Alto montre par sa pratique, et par sa théorie aussi, qu'il est possible d'aborder le phénomène autrement. C'est-à-dire, par exemple, de voir que la souffrance n'est pas un problème personnel. Que c'est des situations pathologiques. Par exemple, c'est Milton Erickson, donc le fondateur de l'hypnose thérapeutique, était très lié à l'école de Palo Alto. Et il y a plein de petites anecdotes comme ça. Par exemple, Milton Erickson voit une femme qui va très très mal, très dépressive. Et il va visiter sa maison et il lui demande de faire pousser des violettes. Donner des petits pots de violettes et de donner des violettes à tous ses voisins. Et en quelques mois, la personne est transfigurée. La dépression est terminée. Donc, il cesse. Et Milton Erickson était très, très lié aussi à cette dimension-là, effectivement, de non personnel, non égologique du mal-être. Et en lui faisant faire, il s'était aperçu dans sa maison que la seule chose qui était à peu près vivant, c'était les fleurs. Donc, c'était encore le seul lieu où une vie existait. Il lui a demandé de faire pousser des violettes pour les offrir au voisinage. Et comme ça, elle a recréé des liens, elle a recréé un réseau. Elle a recréé un lien fondé sur un acte de don et elle a transfiguré son existence. Si elle avait passé son temps à chercher en elle-même la source d'un mal ou la causalité mécanique d'un mal, ça n'aurait pas marché.
Donc ça s'oppose en tout point à la psychanalyse également.
Totalement. Même si Václavic, par exemple, a été formé à Vienne, il est viennois d'origine et il est passé par la psychanalyse. La psychanalyse est une, ça n'est pas que le freudisme. La psychanalyse c'est quelque chose de très beaucoup plus ample. Mais effectivement, oui, d'une certaine manière, c'est anti-cartésien au dernier degré et c'est anti-psychanalytique parce que d'une certaine manière, la psychanalyse reste quand même associée à l'idée que l'esprit est une propriété d'un sujet. Chez Bateson, par exemple, dans les derniers textes de sa vie, vous avez l'idée que l'esprit, c'est un effet systémique. C'est dès lors qu'il y a...
C'est-à-dire quoi, systémique ?
Systémique, c'est-à-dire la systématicité, c'est ce qui s'oppose à l'individuation. Oui. Autrement dit, ou alors plutôt, la systématicité, c'est de penser que ce qui fonde l'existence, c'est tout. Et c'est pas simplement le tout holiste qui est un peu vide, c'est l'interaction. C'est un certain jeu d'interaction. Et qu'à partir de ce jeu d'interaction, peut apparaître ce qu'on appelle des individus. Autrement dit, que l'individu ne fonde rien. Vous voyez ? Et donc, du coup, que les facultés ne fondent rien. Et que peut-être même l'idée de faculté est une idée fausse. Peut-être n'avons-nous pas de faculté. Mais selon les situations, quelque chose comme mémoire peut apparaître. Pourquoi pas, oui. Et donc, du coup, c'est une manière très, très... Pour nous, c'est le monde à l'envers, d'une certaine manière. Mais il s'avère qu'ils ont pu fonder une pratique efficace sur ça.
Bien, écoutons le témoignage de Paul Václavic, justement, un des cofondateurs de l'école Palo Alto.
Dans l'Occident, évidemment, on cherche, on espère de pouvoir surpasser cette dualité douloureuse entre matière, esprit, vrai, faux, etc., mais je crois pour vivre la vie moderne, il faut toujours compter, se baser sur cette dualité. Mais vous voyez que aussi dans les religions occidentales, il y a certainement l'espoir d'arriver à un monde dans lequel cette dichotomie, cette dualité a été éliminée.
Donc l'ennemi Alexis Lavis, si j'ose dire, peut-être que c'est pas un ennemi, mais enfin la chose à essayer de dépasser, c'est le dualisme, c'est l'opposition entre un corps et un esprit, l'opposition binaire entre soi et le monde, le corps, l'esprit, le langage, la réalité, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait. En même temps, si c'est l'ennemi, on rentre dans une dualité.
Vous ben, c'est ça.
Donc on est... Non, c'est... Oui. Il faut voir la chose pour ce qu'elle est. Le bouddhisme dit, l'éveil, c'est voir l'esprit par l'esprit. Qui est une manière un peu énigmatique de parler. Moi, j'ai mis du temps, je lui dis, qu'est-ce qu'il veut le raconter par là ? Parce que... Et puis c'est venu à un moment donné, oui, il est possible de comprendre le mode de fonctionnement de la conscience. C'est pour ça que je m'inspire beaucoup de la phénoménologie. La phénoménologie propose une cartographie des actes de conscience d'une grande finesse. Quant aux conséquences, c'est-à-dire à l'idée qu'il y aurait un moi transcendantal, par exemple chez Husserl, d'une certaine manière, je m'en désolidarise au nom du bouddhisme. Non, il n'y a pas. Le moi n'est pas fondement. Le je n'est pas fondement. Le sujet n'est pas fondement, l'objet n'est pas fondement. C'est un mode d'approche particulier du monde. Et arriver à voir que la conscience est simplement un mode d'approche qui a sa logique propre, bah c'est déjà avoir un rapport plus libre à elle. Il ne s'agit pas d'une libération, on va se promener avec des fleurs et des tutus. C'est juste avoir un rapport plus libre, un peu plus libre. Et voir se dégager un espace d'existence qui n'est pas conditionné par la dualité sujet-objet. Et il existe. Il existe depuis toujours. Il a toujours été reconnu. Mais est-ce qu'on lui a donné droit? C'est-à-dire donné droit par des pratiques, par des manières de vivre, de se parler, de manger, de peindre. On peut peindre à partir de l'espace que j'appelle contemplatif. Les peintures de Jackson Pollock sont un sommet d'une peinture qui peint à partir de cet espace-là. Il n'y a rien d'identifiable, il n'y a pas de centre, et pourtant, ça tient. Allez voir à Washington la Vandermeest, par exemple, qui est l'un des plus beaux tableaux de Jackson Pollock. Vous êtes scié devant la présence, l'intensité de présence de cette toile, et pourtant, pas de centre, pas d'hiérarchie, pas de chose, pas de bien, pas de mal.
Et pourtant, Jackson Pollock avait bien une conscience, et vous qui regardez ce tableau avez une conscience.
Bien sûr.
Dans quelle mesure faut-il juste... Alors, si on n'oppose pas et on sort d'une forme du dualisme et d'affrontement binaire et manichéen, il faut alors arriver à concevoir les choses tout en maintenant... Enfin, à concevoir le cheminement vers l'éveil tout en maintenant la conscience.
Et la conscience se maintient d'elle-même, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelque chose à devoir faire ou à ne pas devoir faire. Il faut donner droit simplement à une modalité d'expérience qui disparaît dans l'approche strictement consciente de la réalité. Mais ça ne veut pas dire que l'approche consciente de la réalité est l'esprit. On pourrait dire l'esprit est beaucoup plus ample d'une certaine manière, ou l'expérience humaine est beaucoup plus ample que l'expérience consciente. Oui, ce qu'il faut arriver à voir, c'est que l'expérience consciente, elle est particulière.
Mmh.
Être conscient. Oui, nous sommes ensemble. Alors, mon expérience consciente, elle est claire. Vous êtes en face de moi, la bouteille est là, je suis dans un studio de radio. Oui, c'est très utile. La porte est par là pour sortir ses pratiques. Néanmoins, nous sommes bien ensemble. Il y a bien un espace à partir duquel, qui existe tout autant, qui est comme une commune présence. Et cet espace-là, il n'est pas blanc sur fond blanc, ou il n'est pas stérile, pas du tout. Il peut donner lieu à des manières d'être, des manières d'agir, des éthiques. Le bouddhisme, à mon avis, est l'éthique de cet espace-là, de cette dimension-là. Même des arts martiaux, pourquoi pas. Ça peut donner...
Et dans quelle mesure est-ce que ce que vous dites ne relève pas d'une approche occidentale du bouddhisme ?
Ah mais j'espère que ça donnera lieu à une approche occidentale du bouddhisme, car je ne vois pas pourquoi le bouddhisme devrait être absolument orientalisé.
C'est ça.
On peut pas dire je milite, mais par mon travail, j'espère effectivement ouvrir un espace d'appropriation de quelque chose qui est absolument génial dans le bouddhisme et qui communique avec notre génie à nous aussi. Voilà.
Nous, c'est qui, les Occidentaux ?
Oui, bien sûr.
L'appropriation étant un geste qui reste quand même celui d'une conscience qui s'empare
d'autre chose.
Non, à
partir de notre propre. C'est pas faire sa propriété, c'est entendre le bouddhisme à partir de notre propre et qui fait pas que de cette voix qui ne nous mette pas en exil par rapport à nous-mêmes dès lors qu'on parle le bouddhisme. Et c'est ça le problème, vous voyez. Si tant que le bouddhisme reste quelque chose d'essentiellement étranger, alors qu'il n'est pas essentiellement étranger, c'est ce que je veux montrer, il n'y a pas de voie possible. Comment voulez-vous être en périphérie de votre existence ? Oui, être bouddhiste, ça signifierait s'habiller en orange et se tondre le crâne. Mais faire ça, c'est se condamner soi-même à l'exil en tant qu'occidental. Nous ne sommes pas comme ça, nous ne faisons pas comme ça, nous ne sentons pas comme ça. Et pourtant, je crois qu'il est possible d'ouvrir une brèche, d'ouvrir une voie, voilà, qui nous est commune et qui nous intéresse, au sens vraiment profond du terme, c'est-à-dire inter-esse, qui mettre notre être en partage. Ouais.
On va commencer par ouvrir votre livre, Alexis Lévis.
Pourquoi pas ?
En tout cas, je recommande aux éditeurs de le faire. Il s'appelle « La conscience à l'épreuve de l'éveil ». Maintenant, on comprend le titre de ce livre. Vous vous proposez donc une lecture, un commentaire et une traduction du Bodhicharyavatara de Shantideva. C'est aux éditions du Cerf. On aurait pu parler des éléphants, Alexis Lévis. On trouve des illustrations dans votre livre. On découvre que la conscience dans le bouddhisme peut être parfois comparée à un éléphant en rut. Et autre surprise, mais je laisse les auditeurs découvrir ça en lisant votre livre. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous évoquez la foule.
C'est Denis Salas, magistrat et essayiste, qui m'en donne l'occasion, puisque son livre, La foule innocente, est sorti tout récemment aux éditions Des Clés des Brouwers. Alors dit comme ça, le titre ne vous frappe peut-être pas, pourtant tout y est. La foule innocente n'est pas une formule évidente et même plutôt contre-intuitive au vu de l'histoire de cette notion. La foule, c'est plutôt la force, la violence, la fièvre, la passion, le crime. La foule, loin de l'innocence, c'est donc plutôt le contraire, c'est le mal, sauf, nous dit Denis Salas, sauf quand elle est attaquée.
Le plan sec et le plan blanc déclenché à Nice cette nuit pour prendre en charge les nombreuses victimes de cette attaque sur la promenade des Anglais. Au moment du feu d'artifice, un semi-remorque a foncé dans la foule très nombreuse pour ce 14 juillet. Il y aurait 73 morts selon un bilan provisoire et plus d'une centaine de blessés. Le conducteur du camion qui était seul à bord a été abattu par les forces de l'ordre et des scènes de panique cette nuit à Nice où des dizaines de personnes se sont mises à courir pour fuir les lieux de l'attaque. Une cellule de crise a été mise en place au palais de la Méditerranée.
Pour Denis Salas, tout commence le 14 juillet 2016. Il était à Nice, il a entendu, il a vu, mais il n'a pas tout saisi sur le moment. Dans un prologue, il raconte les bruits et les cris, les interrogations et les images qui restent. Parmi celles-ci, la foule. La foule crie, apeurée, foudroyée, agglutinée dans les bars et les résidences. C'est quand il remonte à la surface du monde que Denis Salas prend la mesure de ce qui est arrivé et qui donnera donc ce livre avec cette idée. Et si la foule n'était pas la criminelle anonyme que les penseurs en ont fait, mais une individualité paisible, inoffensive, solidaire? Et si la foule permettait alors de penser autrement les victimes et même la figure de la victime qu'on a tendance à banaliser et à affaiblir dans sa définition même? Voilà, c'est le double enjeu de ce livre, repenser la foule et la figure de la victime avec cette question. Mais pourquoi d'abord la foule a-t-elle toujours été suspecte? Pourquoi a-t-elle toujours été accusée coupable?
À mesure que la nuit devenait plus profonde, l'intérêt de la scène s'approfondissait aussi pour moi. Le caractère général de la foule était altéré. Ses traits les plus nobles s'effaçant avec la retraite graduelle de la partie la plus sage de la population, et les plus grossiers venant plus vigoureusement en relief à mesure que l'heure plus avancée tirait chaque espèce d'infamie de sa tanière. Les rayons des becs de gaz, faibles d'abord quand ils luttaient avec le jour mourant, avaient maintenant pris le dessus et jetaient sur toute chose une lumière étincelante et agitée.
La foule, c'est communément ce qu'on définit comme une multitude de personnes rassemblées en un lieu et en un moment, dont la force ne dure qu'un instant et dont le tressaillant est de ne pas en avoir, d'être anonyme, sans visage, sans personnalité. La foule admet ainsi un sens péjoratif, c'est le commun, le vulgaire des hommes. On peut ainsi penser au célèbre texte de Tocqueville sur le despotisme démocratique. Je cite « Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. La foule ou le terreau du nouveau despotisme, Tocqueville l'écrit en 1840. Et c'est aussi en 1840 qu'est publiée la nouvelle d'Edgar Allan Poe, L'homme des foules, dont on vient d'entendre un extrait. Et dans cet extrait, le narrateur y suit la foule et ses hommes, un homme en particulier qui n'a d'autre particularité que d'être l'homme de la foule. Et c'est tout le problème de la foule, ne pas avoir d'identité. Mais comment en est-on venu alors à la trouver suspecte, victime d'elle-même, incapable d'être quelqu'un, comment est-elle devenue coupable ?
Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, le courage. Mais je ne suis pas si grand et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Ah, il faut que je le tue ! Mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine.
Plus loin ? Il n'y a rien ?
Il y a l'amour.
L'amour, non, ce n'est pas ce qu'il faut.
Ah, de raccommander du cela, toi dont je connais le cœur.
Il y a trop de sang, trop de dure violence.
Entre Tocqueville et Les Justes de Camus, plus de 100 ans se sont écoulés. Entre temps, Gustave Le Bon a écrit La psychologie des foules, Gabriel Tarde, L'opinion et la foule, et Freud, Une psychologie des foules et analyse du moi. Entre temps, la foule a donc acquis une identité. Elle est devenue plus qu'un agrégat, mais toujours moins qu'un public. Elle ne fait pas rien, mais elle ne pense pas pour autant. Et c'est de cela qu'elle est coupable, d'avoir une identité, mais pas du tout remarquable. Paradoxalement, c'est l'absence de tressaillant qui est alors remarquée, pointée, accusée, peut-être parce que tout est possible, elle peut être capable du pire ou cible du pire. L'uniformité inquiète, mais c'est quand l'inquiétude s'étend, s'uniformise, que l'on en vient enfin à écouter la foule.
Et là, on aura envie d'écouter la foule de Piaf qui la chante.
Oui, c'est vrai, ou foule sentimentale.
Et voilà, donc la foule est entrée en chanson. La meilleure.
Et on peut lire La foule innocente de Denis Salas, qui est paru aux éditions Des Clés de Brouwer.
Qui est beaucoup plus sérieux qu'une chanson, qui est absolument passionnant. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Elig qui a réalisé cette semaine, Julien Calvas qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série sur le western, philosophie avec le western. On parlera des affameurs d'Anthony Mann, de la poursuite infernale de John Ford, de l'homme des vallées perdues de George Stevens et enfin impitoyable de Clint Eastwood la semaine prochaine. Montez sur votre cheval, sifflez jusqu'au coucher de soleil et surtout aidez les gens à vivre ensemble car vous le verrez, l'art westernien, qui existe bien, n'est pas tant l'art du cow-boy que celui de la possibilité de vivre ensemble. Ça, ce sera lundi prochain, mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission en compagnie d'Alexis Lavis ou bien celle sur Schopenhauer qui ont été diffusées cette semaine, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie, vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous lundi à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.